Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans le 29e épisode déjà de la première saison d'Une Heure en Série. Une Heure en Série, l'émission qui chaque semaine décrypte et analyse l'actualité des séries télé et vous garantit des soirées télé 100% réussies. Oui, parce que c'est pas si facile que ça de réussir une soirée télé. Cette semaine, dans Une Heure en Série, scalpel affûté et enquête au rasoir avec Dr Harrow sur M6, restaurant de tacos et gentrification avec Genderfield sur Netflix et enfin cartel de drogue et guerre de succession dans 000 sur Canal+.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Et vous avez déjà entendu sa douce voix, Vacaine de Frenchmania. Bonjour, mais ne vous empêchez de rien.
Bonjour,
cette émission est une émission de liberté absolue. Frenchmania, qui est un site encore, et dont la parution papier est prévue pour début mai, c'est ça?
Absolument, mai 2020, en librairie.
Eh ben, on sera là, évidemment, pour saluer cet événement. Christine Haas, bonjour.
Bonjour.
Qui vérifie les ongles, c'est de la radio. Vous savez, Christine, tout va bien. Vous pouvez venir même pas coiffer, comme c'est le cas aujourd'hui, comme vous voulez. Et enfin, Benoît Lagan, bien sûr.
Allez, bonjour à tous.
Bien sûr. Qu'on retrouve dans le 5-7 de Mathilde Munoz le vendredi pour sa chronique. Merci à tous d'être là. Le courrier de la semaine, une lettre de Anouk Rudigoz. Cher Xavier, j'ai une réponse à l'une de vos questions existentielles de l'émission du 8 février. Les batteries de téléphone de Jack Bauer duraient indéfiniment. Oui, c'est vrai qu'on se posait un petit peu la question. Parce qu'à l'époque, les téléphones étaient bien moins gourmands. C'est donc crédible, bien plus que sa vessie élastique. Nous avons par exemple un téléphone de 2004 dont je ne peux pas citer la marque puisque nous sommes sur le service public. Mais ce téléphone ne se décharge quasiment jamais et en plus il est beau et ergonomique même s'il ne prend pas de photos. Voilà donc la solution à une énigme existentielle. Pourquoi est-ce que Jack Bauer n'avait pas besoin de recharger son téléphone portable? Un autre courrier de F. Papa Guerra qui me reprend, je parlais de Meurtre au paradis dans le plateau télé en disant mon plaisir coupable de regarder cette série franco-anglaise. Eh bien j'avais annoncé le tournage de la 9e saison. Je suis contredit à juste titre par cette auditrice qui me dit « Mais non, la saison 9 n'est plus en tournage car elle est diffusée sur la BBC tous les jeudis soirs en ce moment et je partage d'ailleurs votre guilty pleasure et j'en profite pour annoncer donc effectivement la diffusion à partir du 16 mars sur France 2 de la nouvelle saison de Meurtre au paradis. » Et puis dernier courrier cette semaine, il nous vient de Régis Piles qui nous dit, nous reproche un tout petit peu mais très gentiment de ne pas nous intéresser à l'animation, aux séries animées et à ce titre, il nous conseille, si nous ne la connaissons pas encore, de découvrir Cowboy Bebop. Pour lui, peut-être la meilleure série d'animation, empruntant selon les épisodes, soit à Sergio Leone, soit à Don Siegel, et voire même sans rire à Kubrick, qui nous recommande en particulier l'épisode Pierrot le Fou, par lequel il faudrait commencer à découvrir cette série Cowboy Bebop, donc diffusée sur Netflix. Eh bien écoutez Régis, merci beaucoup de cet excellent conseil. Oui, j'avais bien l'intention un jour ou l'autre d'inscrire une série d'animation au programme d'Une Heure en Série. Votre conseil, j'espère, a été bien entendu, et en tout cas, effectivement, je vous promets, d'ici la fin de l'année, à un moment ou un autre, un débat autour d'une série d'animation. Et nous commençons tout de suite par le premier débat, Dr Harrow sur M6 depuis le 29 février. Alors, la figure du médecin légiste est une valeur sûre des séries hospitalo-policières. On citera pour mémoire Body of Proof, True Calling, McCallum avec le beau John Hannah ou encore l'indétrônable Silent Witness, affaire non classée en version française qui en est, je crois, à sa 22e saison, Benoît, c'est ça?
Je compte pas.
On a arrêté de compter, on est tous. Sans oublier les Français, Balthazar sur TF1 ou encore Alexandra L sur France 3 avec Julie Depardieu. Bref, tout ça pour vous dire que le filon est loin d'être tari et qu'il fonctionne encore et toujours pour preuve. La 3e saison de Dr Harrow, dont nous allons parler dans quelques secondes, est en cours de tournage. Harrow, c'est le nom de ce beau médecin légiste doté d'un torse impeccablement musclé, un peu comme moi d'ailleurs, et capable de diagnostiquer la cause d'un trépas sans ouvrir le cadavre, tout en regardant le train sifflera trois fois. Bref, comme tout le monde.
Bah oui.
Lieutenant Soroya Das, nouvelle responsable d'investigation, docteur Daniel Harrow, abruti.
Vous aviez autre chose sur moi?
N'écoute personne, arrogant, incapable de bien se raser, un électron libre.
On a retrouvé un corps, et je dirais que le cadavre en question serait beaucoup mieux là où il était.
Quoi que ce soit que tu aies fait, ton secret est dans une tombe.
un rebelle séduisant qui se soucie peu de la hiérarchie quand il s'agit de résoudre une énigme. La série égrène des intrigues bouclées à chaque épisode, mais est également traversée par un fil rouge reposant sur le secret qui taraude notre bel héros. Est-il lui-même un assassin avec trois points d'interrogation? Bon, il y a peu de doute, hein, quand même, au bout de la troisième saison, je pense qu'on le saurait, mais bon, on ne sait jamais. Sur le papier, une impression de déjà-vu, mais faut-il pour autant snobber Dr. Harrow, une série australienne créée par l'écrivain Stephen M. Arvin et interprétée par Johan Gruffudd, qui fut autrefois Mister Fantastique dans une très oubliable adaptation du comic 4 Fantastiques. Alors, chère Ava, avez-vous envie de passer sous le scalpel du beau Dr. Harrow?
J'oserais. Mais moi, j'ai marché, pour tout vous dire.
Hein,
voilà. Je trouve que la série ne révolutionne pas le genre, effectivement. On est dans une ambiance entre Dexter et Dr. House. Le personnage principal, comme vous le disiez, Xavier, est un médecin légiste qui a son petit caractère. On l'a entendu dans la bande-annonce. On dit qu'il est arrogant, on dit qu'il est mal rasé, on dit que c'est un électron libre. Il est sarcastique, il est contre toute forme de dogmatisme. Il aime jouer avec le feu et contredire sa patronne, comme Dr. House. Il est également papa d'une adolescente en crise, fugue, drogue et compagnie. Ses relations avec son ex-femme sont tendues et surtout, il est complètement accro au travail et à la vérité parce que les morts lui parlent. Et c'est une image, hein, évidemment, en quelque sorte. Il ne supporte pas l'idée qu'un indice ait pu échapper à sa vigilance. Et comme vous le disiez, on est tenu par le secret qui anime en plus ce personnage. Voilà. On est partagé entre les tourments intimes du héros et les enquêtes qu'il mène. Le dosage est plutôt bien respecté. C'est divertissant, c'est prenant, parfois amusant, parfois ténébreux. Un drame à énigmes qu'on prend plaisir à suivre parce que c'est bien raconté, c'est bien joué, c'est pas trop mal réalisé. Et en plus, il y a des cliffhangers à la fin de chaque épisode. Un suspense qui nous pousse donc à vouloir regarder la suite. C'est une bonne série de milieu de semaine sur la bonne chaîne, je trouve. Pas pantouflarde, assez sympathique et je peux me contenter de ça.
Pour soirée pluvieuse, épisode, je suis tout à fait d'accord avec vous, Benoît.
Oui, même avis, c'est effectivement le côté Dexter parce qu'il y a ce fameux secret, hein, donc, et il cache quelque chose, donc quoi, on sait pas trop. Dans
Dexter, je rassure les auditeurs, voilà. On ne révèle rien, tout est donné au bout du premier épisode.
On ne révèle rien. C'est effectivement, il y a de l'humour à la Bones, que moi j'aime bien, voilà. Le côté un peu expert, mais aussi, voilà, comme dans toutes les séries du genre. Alors effectivement, ça révolutionne rien, mais c'est ça la force aussi de ce genre de série. C'est-à-dire que, au moins avec un concept tel quel, un personnage bien campé dès le départ, une enquête qui se clôt à chaque épisode, et puis ce fil conducteur, c'est que ça évite d'être brouillon. Et au moins, le personnage, on nous donne pas tout à manger tout de suite sur lui, ce qui peut arriver parfois sur certaines séries où on nous donne tout et après on s'ennuie. Là, au moins, on découvre des choses à chaque fois, que ce soit dans sa vie privée, que ce soit dans l'enquête qu'il cache, que ce soit à chaque enquête et dans sa relation avec ce duo que j'aime beaucoup, le duo avec Soraya Das, qui est vraiment touchant. On y croit vraiment tout de suite. Et plus le côté effectivement Dr. House pour le côté un petit peu méchant du personnage sur certains aspects. Un très beau générique aussi, parce que souvent dans les séries formules du genre, il y a juste le titre de la série et c'est tout.
Bien
là,
vu.
Au moins, il y a un très beau générique
animé
avec ce tourne-disque que je trouve assez beau à la fin. Enfin bref, ça donne envie d'être vu dès le générique et jusqu'au bout.
Christine Azou, qui avait longtemps joué au médecin, bien sûr, au docteur, qui continuait d'aimer ça. Avez-vous pour le docteur Harrow?
Alors là, vraiment, le mot-clé de la bande-annonce là qu'on vient d'entendre, c'était abruti. c'est vrai que, pour moi, ça qualifie ce médecin, je ne sais pas du tout par quel bout le prendre. Hein. Dès qu'il croise quelqu'un, la personne lui dit « entre et ferme la porte », et nous, on a quand même très envie de rester dans le couloir. Et à son assistant, il demande « t'as déjà eu des problèmes de dépression ?»« Non, même pas parce que t'es gay ?» Alors, plus à l'aise avec les cadavres, visiblement, qu'avec les vivants.
Là, vous sortez un peu le dialogue du contexte, cher Christine.
Vous savez ce que c'est, lui demande un flic? Bah, des eaux coulées dans du béton, c'est sûrement pas un suicide. Donc, ni drôle, ni indispensable, hein, comme enquêteur. Je voulais vous inviter à boire un verre, dit la fliquette, nouvellement arrivée de Melbourne. Un verre comme dans un bar, répond Harrow, toujours alerte. Enfin, bon, c'est vrai que pour moi, j'espère véritablement que...
Ça a l'air d'être une série comique géniale, dit comme ça.
J'espère que la fliquette en question, qui est plutôt vive, et l'assistant, qui est plutôt charmant, vont devenir des collaborateurs très proches, hein, qu'on évite l'essoufflement. J'espère aussi que pour animer ces aventures sans aspérité, il y aura quelques rebondissements, autres que ses problèmes avec son ex-femme, avec sa fille semi-délinquante et traumatisée par un lourd passé, qui est tellement mal écrit, tellement mal interprété, qu'on se fiche totalement qu'il l'emmène à Bora Bora ou pas pour recoller les morceaux. Bref, rien ne fonctionne pour moi, rien n'est crédible,
non.
Ni le personnage, okay. Ni les enquêtes. Et c'est vrai que la perspective que à cause de ce lourd secret, on passe de l'enquête médicale au thriller. Hein. On se lasse tellement vite de l'effronterie de ce protagoniste qui clairement n'est pas assez malin pour être crédible en cavalier seul.
Bon, alors si j'ai bien compris ces deux contrats, un mot peut-être sur l'interprète principal, qui n'est pas l'acteur du siècle quand même, mais qui porte très bien la barbe de trois jours. Benoît, vous qui l'apportez également pour faire...
Ian Griffiths, il fait ce qu'il peut avec les moyens du bord. Hein.
Moi, au contraire, je trouve qu'il joue très bien le second degré. Oui. Moi, je l'ai pas vu du tout comme ça. Et puis en plus, il a une histoire avec les personnages du même genre. Il avait été dans Forever et dans Liar, aussi deux autres séries précédemment. Donc du coup, il y a un plaisir aussi de série fille, de le retrouver. Là, il y a à jouer avec les codes.
Et moi, je trouve que c'est vraiment du second degré. On érotise beaucoup, j'ai l'impression, dans ce type de série aussi. Les femmes, les fliquettes, les agents de FBI, etc. Et là, tout d'un coup, c'est un petit peu lui qui mis sous le regard.
Et c'est elle qui le regarde.
Le regard bonbon, voilà. Moi, j'ai plutôt trouvé ça malin.
Ah, très bien. Bon, bah, nous venons de parler de Dr. Harrow, diffusé sur M6 depuis le 29 février. Ça a divisé le plateau. Je vous invite donc à découvrir cette série pour vous faire une opinion. Second degré, premier degré, à vous de vous faire un avis.
Et tu ne décroches plus. Ça m'écorche, je m'efforce de rester fort. À la porte esselée, tu m'as laissé sonner. Pas pour me réjouir, mais je sais que c'est moi qui lasse. Ton cœur n'aime pas le faux, mes excuses font pas d'effet. Je ferai tout ce qu'il faut pour faire un état de compte de fait. Je me demande parfois pourquoi tout se perd fort alors que c'était parfait. S'il te plaît, s'il te plaît, si on s'aime, oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens, je t'emmène. Oh, t'auras plus de problèmes. Oh, le bonheur à l'extrême. Oh, si on s'aime, oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens, je t'emmène. Oh, je sais que t'en as assez de ma voix qui déraille dès que je te parle de mon ex sans faire le vide en moi. Il suffit d'un mot de travers pour que la discussion dérape, parce que la peur de réavoir mal prend toute la place. Tu as perdu confiance, j'en ai bien conscience. Pourtant mes yeux ne mentent pas, les jours n'ont plus de contours. Je ne sais plus quand la nuit me passe, mes joues deviennent toutes rouges quand je te déshabille du regard. Donc s'il faut attendre pour à nouveau s'étendre sur le canapé ensemble, j'attendrai, j'attendrai, j'attendrai. Si on s'aime, oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens, je t'emmène. Oh, t'auras plus de problèmes. Oh, le bonheur à l'extrême. Oh, si on s'aime, oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens, je t'emmène. Oh, reviens-moi. Ton parfum qui m'entoure, c'est bien plus qu'une armure, mon amour. Si on s'aime, notre vie va être belle. Oh, allez viens, je t'emmène. Oh, t'auras plus de problèmes. Oh, le bonheur à l'extrême. Oh, si on s'aime. Oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens, je t'emmène. Oh,
allez viens, je t'emmène. Si on s'aime, par Aloïse Sauvage, chanteuse et comédienne. On l'a vue entre autres au cinéma dans 120 battements par minute et Hors Normes au cinéma, ainsi qu'à la télévision dans la série Trépalium. Elle a été nommée cette année aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation scène. Si on s'aime est extrait de son nouvel album Dévorante, sorti il y a quelques jours. Elle sera en tournée en mars à Marseille et à Lyon entre autres, ainsi qu'en avril, Orléans, Bordeaux et à Paris à La Cigale le 21 avril.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure de l'effet miroir. La télévision regarde dans son passé pour expliquer peut-être le monde d'aujourd'hui. Et cher Benoît, aujourd'hui, en clin d'œil à Dr Haro, retour sur une des séries pionnières de la médecine légale, Les Experts.
Et oui, Xavier, Les Experts, ou CSI, CSI en anglais, fêtent leur 20 ans cette année. Et oui, 20 ans déjà que CBS lancé aux États-Unis.
Que 20 ans? J'ai l'impression que ça fait 50 ans que c'est diffusé.
Et pourtant, non, 20 ans, c'est début 2000. C'est donc, c'est que ça remonte. Hein. Donc, c'est une série devenue très vite une marque, une série dérivée, hein, ce qui a permis notamment à TF1 d'en faire son arme de destruction massive de programmes de la concurrence pendant des années, avec des scènes du genre... Une chambre d'hôtel, gros plan sur un cadavre, des bouteilles jonchées au sol, des traces de sang sur le lit et sur le mur, et un deuxième corps dans la salle de bain, flashback. Une image saccadée, une personne titube tombe et se cogne sur le coin du lavabo. Retour sur la scène de crime, un expert vérifie le moindre recoin de moquette et un autre examine la blessure par balle sur le corps de la première victime. Reconstitution en image de synthèse en 4 secondes 30 centièmes du parcours probable de la balle dans le corps de la victime. Chez les experts, il y a tout de suite eu une signature, un emballage hyper reconnaissable dans la version Vegas par exemple en deux plans, sous le soleil en plein désert ou la nuit sous les néons de la ville la moins éco-responsable du monde, on sait où on est et si on zappe par hasard en plein épisode, eh bien on tombe dans un labo, une salle d'autopsie, lumière bleutée, à l'hygiène irréprochable qui ferait fuir le moindre coronavirus. Une signature donc visuelle, mais plusieurs écoles et villes. La version, je tire la gueule sous la pluie de Manhattan avec Gary Sinise. L'option sable chaud de David Caruso à Miami, qui suit l'homme aux deux expressions. Je joue avec mes lunettes et je pose mes mains sur mes hanches.
C'est tellement vrai.
Et enfin, la plus réussie, les experts Las Vegas autour de William Petersen, le scientifique aux jambes arquées, Gil Grissom, ou sourire en coin, aux problèmes d'audition et au vocabulaire parfois un peu compliqué.
La poudre que Warwick a trouvée dans sa voiture est de l'ibogaïne.
C'est quoi le truc qui fait pousser les cheveux?
Un inhibiteur de la cholinestérase, plutôt, qui agit comme stimulant du système nerveux central. Dans le foie, cette substance se transforme en un métabolite actif connu sous le nom de noribogaïne. La noribogaïne se fixe sur les récepteurs de la dépendance et bloque la stimulation de la dopamine mésolimbique induite par la cocaïne.
Et en langage humain, ça donnerait quoi?
Dans certains cas, une seule dose d'ibogaïne peut supprimer la dépendance physique à la drogue.
En cas de bonus, on vous donne quoi? Des couteaux à steak?
Non, un tour de manège gratuit. La disparition de la dépendance n'est qu'un effet secondaire. Sa fonction première est d'amplifier les sensations visuelles, tactiles et auditives pour nous permettre d'accéder à d'autres niveaux de réalité.
Autrement dit, c'est un hallucinogène.
Eh oui, les experts, c'est la rencontre réussie entre deux formes de séries qui cartonnaient sur les networks dans les années 90. Le genre de l'enquête policière hyper efficace, hein, miroir de son époque, genre Law and Order de Dick Wolf, j'en parlais dans une précédente chronique, et le genre médical, avec ce langage qu'on comprend pas, qui prédominait donc à l'époque avec Urgence. Les experts Vegas vont d'ailleurs remplacer très vite Urgence dans le top des audiences américaines et durera également 15 ans, comme la série du Cook County Hospital.
Mais alors pour autant, qu'est-ce qui fait que parmi les multiples séries inspirées par les experts CSI, Vegas reste, à vos yeux, la plus réussie?
Bien, avoir les multiples copies, effectivement, les experts Vegas est plus réussi, sans aucun doute. Et pourtant, personne ne croyait au projet. Anthony Zicker, le créateur de la série, l'a beaucoup raconté. Eh bien, si les experts Vegas, c'est réussi, ben, c'est tout simplement parce que d'abord, c'est plus qu'un simple concept. La série vise juste par son décor, dans lequel elle évolue, cadre parfaitement avec le sujet. Idem pour les profils de ses personnages, une ex-stripteaseuse, Catherine Willows, un addict au jeu à Vegas, Warwick Brown, un expert qui perd son audition, Grissom, et à Las Vegas, la ville de la chance et du hasard. On peut tout perdre ou tout gagner très rapidement, donc le cadre parfait pour y installer une scène de crime. Et que l'enquête soit menée par des scientifiques pour qui le moindre détail peut expliquer, éclairer ou résoudre l'énigme, ça prend toute sa force, car oui, contrairement au jeu de hasard, où tout rafler ou tout perdre est insondable, les causes d'une mort, accidentelle ou pas, s'expliquent toujours. De plus, le cadre de la police scientifique est extrêmement malin pour s'intéresser autant au meurtrier, et à son mobile apparent ou pas, qu'à la victime. D'ailleurs, comme dans une série médicale, ce qu'apportent concrètement les experts, c'est remettre la victime au centre de l'histoire. Et en examinant de près la scène de crime et le cadavre, les experts redonnent non seulement un nom et un visage à la victime, mais révèlent et auscultent aussi leur société.
Merci beaucoup Benoît Lagan pour cet excellent effet miroir que vous pouvez réécouter en podcast ainsi que l'émission, bien évidemment. Vous êtes toujours sur France Inter dans une heure en série avec Ava Cahen, Christine Haas et Benoît Lagan. Il est temps maintenant d'aborder le deuxième débat de cette soirée, Gentrified, une série de 10 épisodes de 30 minutes diffusée depuis le 21 février sur Netflix. Pop, vieux Mexicain solitaire, essaie de sauver comme il le peut son vieux restaurant de tacos situé dans un quartier latino à la périphérie de Los Angeles. Dans cette rude tâche, il est secondé par ses deux petits-fils, deux garçons aussi différents que possible, et leur cousine, une artiste queer lesbienne militante, dont l'implication dans le sauvetage du restaurant se résume au fait de piquer chaque jour des tacos dans l'arrière-cuisine.
5 dollars pour un burrito?
Tu files des burritos gratuits depuis des années.
Yo canté por esos tacos.
Personne veut que tu chantes.
C'est pas chente, mon pote.
Il nous faut une nouvelle approche.
Je vais te donner une nouvelle liste d'ingrédients qu'on peut essayer et ça va être super. Les gens adorent découvrir de nouveaux trucs. On va pas sauver le restaurant avec les burritos, on va le sauver en faisant des choses.
Qu'est-ce que c'est?
Des tacos au poulet tikka masala.
T'as combien d'américains? Non, combien d'américains?
Oye, tu t'en seguro que es mexicano?
Je suis plus mexicain que vous tous.
Et surtout, laissez un commentaire sur eux. Sauf si c'est négatif, alors dans ce cas-là, vous gardez ça pour vous, cabron.
On connaît des gens puissants.
Derrière les apparences de la feel-good série se cache une fiction, je trouve, lucide et perfide, qui s'inquiète de la gentrification et du blanchiment de certains quartiers délaissés de L.A., des kilomètres carrés bon marché qui deviennent le monopoly de promoteurs peu scrupuleux prêts à tout pour se faire du fric et vous vendre une salade bio à 25 dollars. Et surtout, totalement indifférent au sort de celles et ceux qui vivent là depuis des années. Une communauté latino dont Gentrified raconte le quotidien, le contexte social, les conditions de vie et de travail souvent indignes, la terreur des contrôles de l'immigration, les conséquences de la politique de Donald Trump et pose la question de l'oubli de la culture d'origine au nom de l'intégration. Une série créée par Marvin Lemus et Linda Yvette Chavez avec Carrie Martin, Joseph Julian Soria qu'on avait pu voir dans Animal Kingdom, Carlos Santos et Joaquim Cosio qu'on avait pu voir dans Narcos Mexico et The Strain. Ah, les latinos, les tacos, la chaleur ambiante, c'est pour Christina.
Tout à fait. C'est vrai que le récit s'intéresse aux Chicanos qu'on voit rarement autrement que sous la forme de stéréotypes dans les séries et les films américains.
Tout à fait d'accord avec
vous. Et qui là donc vont devoir ajuster leur style de vie à une nouvelle réalité tout en essayant de conserver leur identité culturelle. Alors, c'est vrai qu'on met un certain temps à s'attacher aux personnages, à s'intéresser aux récits qui se baladent d'abord entre la comédie, le drame et puis des moments presque surréalistes. Sans doute parce que les réalisateurs se succèdent chacun avec leur style, incluant notamment America Ferrara qui est la productrice de la série, qui est d'origine hondurienne, connue pour la série Ugly Betty, très impliquée politiquement chez les démocrates et dans le mouvement MeToo, très influente chez les latino-américains. Et alors finalement, peut-être grâce à elle, entre la satire et le stéréotype, la série, qui se joue en anglais, comme on l'a entendu, en espagnol, finit par trouver le bon ton, devient plus nuancé, drôle, touchante, authentique, et tandis que les divers personnages permettent d'explorer tous les contours de la réalité latino-américaine, eh ben on évoque l'homophobie, l'illettrisme, le racisme, la colonisation du quartier par les Blancs, la difficulté de conserver l'espoir, de garder sa dignité, le travail du syndicaliste, le bénévolat, bref, tout ce qui fait l'identité latino-américaine, et progressivement, véritablement, on s'attache aux personnages, particulièrement à ce grand-père, Casimiro, qui est pour moi le cœur battant de la série, pris dans un conflit intergénérationnel, tentant de sortir de son état de prostration depuis la mort de sa femme, tétanisé par la transformation de son quartier. Je dois dire que l'acteur Joaquin Cosio est véritablement bouleversant. Ses deux petits-fils, vous le disiez, représentent les deux antagonismes de la situation. Hein, l'un surnommé Coconut, noir dehors et blanc dedans, s'aplatit devant son patron raciste dans l'espoir de s'intégrer. Hein, c'est le millénial biculturel. L'autre, qui est plutôt le paisano de la vieille école, s'accroche à son identité mexicaine et gère le resto qui est en train de sombrer. Et au milieu de ce concours de beats, eh ben, on a Anna, la cousine artiste et lesbienne qui tente de s'imposer dans un monde artistique qui n'hésite pas à la manipuler. Alors c'est vrai que ce qui est très touchant dans cette série, c'est le regard tendre sur une population qui a véritablement tout quitté dans l'espoir d'offrir un avenir meilleur à ses enfants. Et il y a des personnages qui, moi, me bouleversent. C'est la mère d'Anna qui travaille dans une sweatshop où elle doit se retenir de faire pipi jusqu'à ce que son patron l'autorise à y aller.
Très belle
épisode. C'est vraiment un personnage bouleversant. Et puis le mariachi aussi, qui chante ses vieilles chansons que plus personne n'écoute. et qui vit dans son camion avec son fils. Donc bref, c'est bourré de clins d'œil. Hein. Un camion qui s'appelle Selma Hayek, il y a Frida Kahlo qui passe par là, il y a Chi Shen Chang qui sont les deux héros de la contre-culture qui sont dans le coin. Bref, une évocation de Ricky Ricardo. Vraiment, moi j'attends la deuxième saison, la fin est clairement ouverte sur ça et cette possibilité.
Je suis comme vous, ça a mis un peu de temps à démarrer, après je me suis attaché au personnage, et à la fin du 10e épisode, eh ben, j'étais en manque, j'avais besoin de les retrouver, j'avais besoin
de les
voir.
C'est une petite famille qu'on
absolument.
Rejoint.
Absolument. Barbe de trois jours, chemise à carreaux, notre bobo ici représentant Benoît Lagan, a-t-il aimé cette dénonciation de la gentrification des quartiers pauvres?
Non! Non, mais ce que dit Christine est juste, tout ce qu'elle a dit, pour moi, je valide. Mon problème, et mon gros problème, justement, et on va pas aller le chercher dans le fait que les réalisateurs changent à chaque épisode, c'est le principe même de certaines de ces séries. C'est-à-dire qu'en termes d'écriture, c'est très très brouillant pendant au moins 4 épisodes. C'est-à-dire que ces personnages, on ne s'y attache pas alors qu'il y a tout le potentiel. Et il faut attendre 4 épisodes pour vraiment être emballé. Et surtout, moi, le plus gros problème, parce que ça encore, bon, on peut excuser, on sent bien qu'il y a de la sympathie qui va naître. Donc et puis c'est sur Netflix, donc du coup on peut enchaîner les épisodes, donc c'est pratique. Ça permet de se regarder les 4 épisodes très vite et après on est vraiment dedans. Le problème, c'est la question justement de la gentrification. C'est que ce sujet-là arrive trop tard, à mon avis. Il est évoqué par bribes au début, et puis quand il arrive, ça peut être trop tard pour beaucoup de spectateurs qui n'iraient pas, qui ne pousseraient pas plus loin. Mais après, effectivement, on passe un agréable moment. Tout tient grâce à la sympathie qu'on va avoir pour ces personnages, et le grand-père en particulier, effectivement, qu'on comprend pas trop, mais qu'on sent attachant immédiatement. Même si on est d'accord avec lui concernant la vie qu'il a de façon très différente envers tous ses cousins. C'est vraiment, c'est passionnant parce que c'est assez rare, effectivement, dans les séries américaines, de voir la communauté latino traitée de cette manière-là, comme la communauté afro-américaine a pu le faire par le passé, ou comme bien évidemment les WASP depuis le début de la télévision. Voilà. Donc c'est vraiment à voir, mais attention, voilà, ne vous laissez pas perdre par les 4 ou 5 premiers épisodes. Allez plus loin parce que ça vaut le coup.
C'est quelques petits défauts d'écriture, mais qui sont vraiment du détail. Enfin, je rejoins davantage Christine parce que je trouve que c'est vraiment une série qui nous lave des clichés, des préjugés, qui évite absolument la caricature et l'exotisme. C'est une chouette comédie dramatique. Les anglo-saxons disent dramédie pour définir ce genre de programme. Et la série flirte avec les codes de la sitcom, comme avec ceux de la telenovela aussi. Le côté kitsch en moins. C'est réussi, c'est drôle, c'est touchant. Moi, très vite, je me suis attachée en réalité aux trois cousins d'origine mexicaine que la série met en scène, les Morales donc, qui tous poursuivent leur rêve américain, et l'action se déroule à Los Angeles, qui est la ville des rêves par excellence, ou en tout cas la ville qui fabrique tout du moins ces rêves-ci. Donc on est partagé entre le boulot, le restaurant de tacos de papy, la famille, les amis, les amours, les emmerdes, la pression immobilière, les conséquences, oui, de la gentrification, la pression financière. La série brasse, je trouve, tous ces sujets avec vraiment beaucoup de dextérité. Ce qu'on voit aussi, ce sont des personnages qui font face aux difficultés ensemble, qui se serrent les coudes, qui vont chercher à s'affirmer, à faire entendre à la fois leurs valeurs, leurs forces, leurs droits, leurs voix. Et quant à leurs éclats de rire, je trouve qu'ils sont terriblement communicatifs. Donc pour conclure, je dirais que c'est vraiment une série très agréable à suivre, familiale, chaleureuse, et on est gagné par une forme de bonne humeur qui me semble ces temps-ci terriblement bienvenue.
Il y a une très jolie intrigue à un moment dans la série, c'est quand le petit-fils qu'on croit un peu bené, qui travaille au restaurant, crée ce deal avec les enfants du quartier. Tu lis un livre et t'as cause gratuite, ouais, je trouve que pour lutter contre l'illettrie. Et c'est une bonne idée parce que le personnage, on le croyait un peu bonnet, on pensait que c'était celui qui venait du restaurant luxueux, qui allait être le héros. Et en fait, on s'aperçoit que non, il y a un joli rapport de force qui s'inverse. Ah, Benoît va conclure, bien sûr.
Non, mais juste
l'effet.
Non, mais l'effet aussi que je trouve assez drôle, c'est par rapport à ce personnage qui est celui qui travaille dans un grand restaurant. Quand il invente un tacos un peu classe, les personnes qui viennent acheter du tacos classique trouvent ça vraiment dégueulasse.
Je trouve ça assez rigolo. Le tacos, c'est gras, c'est lourd, mais c'est tellement bon. Voilà, c'était Gentrified sur Netflix depuis le 21 février et on vous le recommande quand même chaleureusement.
Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. Know you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, man, a cheapskate, huh? Niggas gotta move off my release day, huh? Bitch, this is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth.
Baby got an ego twice the size of the crib. I can never tell a shit, it is what it is. But said what I had to and did what I did. I never turn my back on FBG, God forbid. But Virgil got a paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dumb shit. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush.
It's cool, man. Got red bottoms on. Life is good. You know what I mean?
Like, 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, automotive bitch. Ooh, dropped $3 on the ring, call it Bentley truck, little bitch. Ooh, I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same since. Ooh, granted, she was standing right there while I catch play on the brick. Ooh, I made them little niggas go haywire, Taliban in this bitch. Ooh, I done been down bad in them trenches, had to ride with that stick. Ooh, who gave you pills, who gave that dust, Pluto sent you on the lick. Ooh, too many convicts, they enrolled me to play in this shit. Ooh, round about nonsense, get old, so I'm spreading this bitch. Ooh, they had the counter light, lighting it up, nigga, anybody can get it. Ooh, I'm on a PJ, lighting it up, backwood full of sticky. Ooh, I'm trying to tote that Draco in London, and it's extended. Ooh, they got a stretcher, nigga, how we gon' die for this shit? Ooh, yeah, I ride for my niggas, I lie to my bitch. Ooh, we some poor, high class niggas, made it, we rich. Yeah, I was at the band, though, got a penthouse for a closet. Ooh, it's like a Shando, live on my neck, my wrist. Ooh, I got pink toes that talk different languages. Ooh, gotta put melazine in my blood and Percocet. 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, automotive bitch. Ooh, dropped $3 on the ring, call it Bentley truck, little bitch. Ooh, I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same since. That's by the time I call him Serene. I go tremendo for new fettuccine. All fat though, claret to pinky. All fat though, we order the Fiji. I'm in the loop with the voo, I'm in the loop with the woo. Which one you working? I put your face in the news. I put the puss on the shirt. After I murk it, make him go shoot up the hearse. Cost me a quarter bird. Nigga's birthday and you a maniac, a fucking alien. How you spurging? Got that kitty cat, I'm having fun with that. Going Birkin. 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, automotive bitch. Ooh, dropped $3 on the ring, call it Bentley truck, little bitch. Ooh, I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same since. Ooh,
100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. 100,000
for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. Future, Drake, Life is Good, l'association tout en vibe de deux rappeurs pour un titre sorti en janvier et qui a été immédiatement un gros carton aux États-Unis.
France Inter. Une heure en série.
C'est le moment du conseil littéraire et on reste dans la tradition latino-mexicaine avec Santa Muerte de Gabino Iglesias, sorti chez Sonatine, premier roman publié en France de cet écrivain originaire de Puerto Rico et dont la note biographique nous dit qu'il est culturiste de métier, ça se voit sur la photo, et qu'il ne dort que 4 heures par nuit. Nous aussi, on n'en fait pas non plus tout un flanc. Hein, voilà. Mauvaise nuit, mauvaise drogue, mauvais choix, Fernando a été obligé de fuir le Mexique après avoir provoqué un inutile bain de sang. Ce ne sera pas le dernier de ce roman. Fraîchement débarqué à Austin, il est enlevé par un gang hyper tatoué qui, pour prouver que la ville leur appartient, décapite son pote Nestor au couteau devant les yeux horrifiés, hein, comme il se doit, de notre héros. Même ses prières répétées à Santa Muerte, la patronne de ce malfrat, fervent catholique dans la vie, n'y font rien. Nestor expire dans la douleur. Fernando n'a plus qu'une idée, se venger. Un roman noir au vitriol porté par un humour sale et méchant et un style qui claque, qui cingle. Mais ce qui fait la force de ce roman, c'est que derrière l'hommage au genre, son auteur évoque aussi et surtout le sort des clandestins, ces femmes et ces hommes qui vivent dans l'Amérique de Trump, qui survivent comme ils peuvent, rasent les murs, terrorisés à l'idée d'être renvoyés. Et cela donne des pages absolument magnifiques, poignantes, digressions qui interrompent sporadiquement la logique sanglante de ce western nihiliste et sardonique, des phrases qui claquent et qui disent avec une justesse bouleversante l'universelle douleur des immigrés. Je me permets de vous en citer une. Quand tu traverses la frontière, celle-ci conserve une partie de toi, elle te coupe jusqu'à l'os, t'empêchant de cicatriser.
Elle perfore des endroits qu'aucune lame ni aucune balle ne peut atteindre et elle te mutile d'une manière que tu ne peux pas comprendre. Quand tu traverses la frontière, ton corps devient un aimant qui attire tout le mal accumulé le long de cette horrible ligne des démarcations, mort, destruction, désespoir, oubli, néant infini, nuit éternelle remplie de cris. Santa Muerte de Gabino Iglesias, chaudement recommandé, et c'est sorti chez Sonatine. Troisième débat, 000, une série franco-américano-italienne. Oui, beaucoup de gens se sont mis pour la produire. De 8 épisodes disponibles sur Canal+, à partir du 9 mars, une sanglante guerre de succession en Calabre, une rivalité entre un frère et une sœur à la Nouvelle-Orléans et les appétits démesurés d'une section des forces spéciales au Mexique compromettent la livraison par bateau d'une immense cargaison de drogue. Tout le monde veut sa part et les morts s'accumulent.
This token transfers $31 million as soon as the product leaves Mexican waters. The rest will be transferred when the shipment arrives at Joya Dara.
¿Y si no llega?
And we all take a loss.
Catai 5.000 kg. Make i prezzi sempre.
Faccio chiovere 900 milioni di cielo.
Take us to the cargo.
Buyers and sellers are connected by brokers.
We are the brokers. There'll be no introduction.
Un polar de toutes les mafias, tranchant, violent et hyper documenté, où l'on reconnaît d'emblée la patte de Roberto Saviano, l'auteur de Gomorra et dernièrement de Piranhas, puisque cette série est inspirée de son récit journalistique extra pur, de ce livre d'investigation. Les auteurs, Roberto Saviano en tête, mais également Stefano Solima et Leonardo Fazzoli, qui avaient tous les deux collaboré à la série Gomorra, ont fait la base de 000, qui est donc un objet à la fois fictionnel, mais extrêmement réaliste. Côté distribution, on retrouve l'excellent Giuseppe De Domenico, qu'on avait vu dans Euphoria de Valeria Golino, Andrea Riseborough, qu'on avait vu dans Bloodline, Dandéane, qu'on avait vu dans Valériane de Luc Besson, et Gabriel Byrne, qu'on a vu récemment dans La Guerre des Mondes sur Canal+. Déjà, Benoît Lagana, ah, ça sent la drogue, ça sent la sueur, ça sent l'illégalité, c'est pour vous ça?
Pas vraiment.
Non, d'accord, ok.
Non, j'ai vraiment été très, très, très déçu par ce que j'ai vu. Alors, pour être honnête, moi, par exemple, je suis jamais allé au bout de Gomorra parce que l'esthétisme de la violence qui pouvait être à l'œuvre dans cette série, même si je trouvais la série très forte et importante dans son propos, à un moment donné, je pouvais pas tenir au long cours, en suffoque, et je pouvais plus. Là, c'est pas ça justement qui m'a freiné. Y a certes de l'esthétisme, de la violence. On balance des cadavres et des porcs bouffent les cadavres. On voit ces mafieux qui s'entretuent tous les uns après les autres. Y a ça, et pour autant, ça ne m'intéresse pas. En fait, on nous le vend comme l'adaptation de Extra Pur dans l'économie de la cocaïne, donc ce fameux document journalistique d'investigation. Mais alors, qu'est-ce que ça nous dit de ce business? Rien, à part des gens qui se butent les uns derrière les autres. C'est extrêmement lent, extrêmement long. Au point que moi, les séries de mafieux, je commence vraiment à en avoir marre. Et au bout d'un premier épisode, je m'étais endormi. J'enchaîne sur le deuxième, je m'endors à nouveau. Dans le troisième, alors là, ça commence à devenir un peu intéressant grâce à ce huis clos sur le bateau. Et puis, enfin, ça devrait être flamboyant et ça fait juste plouf. Moi, à un moment donné, quand je regarde ça, je me dis, mais il faut arrêter les séries avec les mafieux qui jouent aux mafieux. Parce qu'en plus, là, tous ces hommes qui se la racontent, ça m'insupporte. Même si c'est sans doute très réaliste, j'accroche pas.
Christinas.
Eh ben moi, j'ai accroché, bizarrement. C'est vrai que j'étais assez captivée par ce tour du monde frénétique, hein, cette histoire sombre dans laquelle il n'y a pas de héros, justement, juste des personnages complexes et fous qui ne s'intéressent qu'à une chose, à l'argent. C'est presque hypnotique, hein, comme quête, et d'autant plus fascinant que la réalisation est quand même assurée par des cadors du genre, hein, que ce soit Stefano Solima, je rappelle, Romanzo Criminal, Gomorra, Suburra, Sicario, bon, Janusz Metz, la deuxième saison de True Detective, Pablo Trapero, El Clan, bon, donc tout ça, ça fait parfois des scènes d'une beauté absolument effrayante, c'est
juste
vrai. Et en même temps, on découvre toutes les manières de faire entrer. Moi, je trouve qu'on apprend beaucoup de choses sur le trafic de cocaïne, notamment toutes les manières de la faire entrer en contrebande, hein, les couches du bébé, les containers de bananes, le tank d'eau potable, quand on enduit la veste d'un passeur de cocaïne, bref.
Les conserves de piment.
Conserves de piment. C'est une narration qui est dense, vertigineuse, qui révèle effectivement une violence parfois insoutenable, c'est vrai, mais le trafic de cocaïne, avec ses tortures effroyables, repose sur l'idée que la terreur mène à l'obéissance absolue et protège le profit. Donc c'est ça l'idée. On voit que la cocaïne est partout, hein, c'est le lubrifiant du système bancaire. Elle remplit les poches des forces de l'ordre, elle saupoudre les ports africains, c'est le supermarché géant des cartels mexicains. Bref, on est sur une montagne russe avec des mouvements de tension, des dangers effrayants. Et on est complètement hypnotisé par ce catalogue de narcotrafiquants, tous plus épouvantables les uns que les autres. Et moi, je dois dire que j'ai accroché sur cette forme avant-arrière de la narration, qui est en fait très dynamique. On découvre une action coup de poing, et à travers un flashback, la même scène est vécue par un autre personnage et apporte un nouveau point de vue qui fait à nouveau basculer le récit. Donc c'est vrai, tant sur la forme que sur le fond, j'ai été assez captivé par cette histoire.
Benoît, mais droit de réponse, vous avez beaucoup soupiré derrière votre micro.
Non, mais juste par rapport à ce que dit Christine, revoyez la série, la mini-série Trafic qui avait été adaptée d'après le film de Soderbergh, qui était 10 fois plus intéressante en termes de description de ce que c'était que le trafic de drogue.
C'est vrai que le sujet est pas neuf, ça on peut pas dire le contraire, voilà, c'est un sujet qui ne connaît pas de frontières mais qui visiblement continue à faire recette. Et là où je rejoins Christine, c'est que c'est dans la réalisation, c'est vrai que là on fait dans le haut de gamme, on est dans un traitement digne du cinéma, c'est de la fiction à gros moyens, il y a un vrai sens de la photo, du cadre, des décors, des personnages, on l'a entendu aussi dans l'extrait de la musique, voilà, des basses et des violons qui profilent l'attention, et un générique qui lorgne aussi du côté des génériques de James Bond, qui mise sur le symbolisme, la bague des parrains, un serpent, une tempête de poudre noire, un chapelet. Voilà, on est confronté à une imagerie qu'on connaît bien, la mafia, les fusillades, les liasses de billets, la poudre, les voitures et les barils qui crament, la corruption. C'est très viril, c'est une série vraiment sous testostérone, et en même temps, ce que je trouve très intéressant, c'est d'avoir abordé plusieurs points de vue, d'avoir fragmenté le récit de la sorte. On voyage entre le Mexique, les États-Unis et l'Italie. On suit effectivement les différentes étapes, hein, voilà, de cette grosse livraison de cocaïne. On parle de 5 tonnes, hein, c'est quand même pas rien. Donc oui, ça réinvente pas le genre, mais ça coche plutôt toutes les cases, en réalité, de celui-ci. C'est suffisamment bien fichu pour que ça fonctionne et qu'on soit pris dans la série. C'est bien joué. Dans l'ensemble, je suis plutôt convaincue. Et puis le titre, tout de suite, est évidemment une énigme, hein, 000. C'est évidemment en rapport avec la pureté du produit, donc bonne cam, quoi.
Bien joué, 000, oui, donc disponible sur Canal+, à partir du 9 mars.
Valutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Valutation. Valutation. Io, amore mio, non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Valutation. Si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è, valutation, valutation.
Io amore mio non capisco perché, tu vuoi fare in callo poi fai l'uovo con me sulle tension. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane perché assassination. Quando pensi a te, pensa.
Mariano Celentano's Valutation, un titre de 1976, très engagé, qui dénonçait l'Italie de l'époque, sa corruption et sa déliquescence sociale. J'ai envie de dire, rien n'a changé.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est le moment de la pépite inédite. Et l'inédit de la semaine, c'est Interrogation sur CBS All Access, qui est la plateforme de CBS, et diffusée depuis le 6 février 2020. Je vous demande un peu d'attention. C'est une série en 10 épisodes dont vous êtes l'acteur principal, mais dont les seuls 9 premiers épisodes ont été mis en ligne. Vous allez comprendre dans quelques instants de quoi il en retourne. C'est très simple. La série s'inspire d'un fait divers réel qui s'est déroulé en 1983. Un jeune garçon pour le moins instable et les mains pleines de sang est interrogé par un flic. On l'a retrouvé près du corps lardé de coups de couteau de sa mère. Le flic lui demande de raconter sa journée. La mémoire du fils s'embrouille. Le jeune homme revient sur ses déclarations, rectifie l'ordre des souvenirs. Il est parti chercher du boulot, puis il est passé chez sa mère, qu'il a découverte baignant dans son sang. Il clame son innocence, mais les empreintes retrouvées au domicile de ses parents contredisent son témoignage et l'incriminent, ainsi que son comportement confus et agressif. Désespéré, il demande à passer le test du polygraphe. Il échoue et devient aux yeux de tous le seul et unique coupable. 20 ans plus tard, toujours incarcéré, il tente d'ouvrir à nouveau le dossier, convaincu que l'enquête a été volontairement bâclée. Voilà pour le premier épisode. En revanche, pour les 8 suivants, tous basés sur des interrogatoires ayant eu vraiment lieu pendant la révision du procès, libre à vous de les regarder dans n'importe quel ordre. Vous devenez à votre tour l'enquêteur de cette macabre histoire. Un seul mot d'ordre, suivez les preuves. En revanche, pour la résolution, il vous faudra attendre la diffusion du dernier épisode. Autant vous dire que c'est un suspense imparable et furieusement addictif. Une série créée par Anders Weidelman et John Mankiewicz, qui étaient coproducteurs de House of Cards et Bosch, pas n'importe qui donc, avec Peter Sarsgaard dans le rôle du flic un peu louche, Kyle Gallner et Vincent D'Onofrio, qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps et qu'on aime toujours autant. Voilà, j'aimerais bien que ça arrive un jour en France, parce que je peux vous dire que ça fonctionne à mort. On a très envie de jouer les enquêteurs et évidemment de découvrir avant tout le monde la solution.
Et vous, vous avez pioché quel épisode du coup, après le premier? Vous avez envie de voir lequel?
Ah ben alors, après moi j'ai regardé le deuxième, après moi je suis très scolaire, moi j'ai regardé dans l'ordre de toute façon, et malheureusement à ce jour je ne peux pas vous dire qui a vraiment tué puisque je ne le sais pas. Interrogation sur CBS All Access. L'heure du plateau télé maintenant, qu'avez-vous dans votre petite escarcelle? Chère Christine, vous vous êtes penchée sur le cas de Marcella cette semaine.
Oui, c'est vrai que Marcella est une série qui a été créée en 2016 et dont les 2 saisons sont actuellement visibles sur Netflix. Et l'histoire commence en fait lorsqu'un inspecteur de la brigade des meurtres rend visite à Marcella, mariée, mère de 2 enfants, pour récupérer des infos sur un serial killer ayant sévi 11 ans auparavant, du temps où elle était flic. Et donc, elle, ce tueur se remet à tuer et Marcella reprend du service. Tout ça serait assez banal, sauf que Marcella a quelques problèmes de santé mentale et souffre notamment de graves pertes de mémoire. Donc, quand la maîtresse de son mari est portée disparue et que Marcella retrouve l'endroit où se trouve le corps à l'aide de flashbacks, elle commence à se demander si des fois elle ne l'aurait pas buté lors d'une de ses absences de lucidité, où elle peut se montrer, on va le voir, très violente. Alors, ceux qui aiment les héroïnes torturées comme la fliquette atteinte du syndrome d'Asperger de Braun ou l'enquêtrice au pull vert moche de Killing, eh ben, ils vont être captivés par cette série dite British Nordique Noire, créée par Hans Rosenfeld, scénariste de Braun, justement, et décidément très doué pour imaginer des femmes de force et de faille insérées dans des fictions très denses, avec des personnages ambigus, des coups de théâtre, des revirements qui s'enchaînent, des passages haletants. En fait, chaque saison résout une affaire, tout en laissant parfois des béances dans l'intrigue policière, tant la frontière est mince, chez Marcella, entre la policière, la victime, voire possiblement l'accomplice. Donc, Hans Rosenfeld se concentre sur le thriller. Il n'y a pas de perte de temps, pas de détour dans l'intrigue, pas de dimension sociale comme dans Braun. Hein, la série est superbement filmée avec en arrière-plan le nouveau skyline de Londres. La mise en scène est parfois un peu spectaculaire quand l'image et la musique maximisent à outrance. Mais la virtuosité de l'auteur à multiplier les pistes sans sortir des lignes est quand même assez impressionnante. Et dans le rôle de Marcella, c'est vrai que Anna Friel offre une très belle interprétation de l'héroïne britannique frappadingue. Donc après le final dramatique de la saison 2, on sait déjà que dans la saison 3, Marcella va s'installer à Belfast sous un autre nom. Jusqu'à quel point va-t-elle se perdre dans cette nouvelle identité? Eh ben, moi j'attends avec impatience les 8 nouveaux épisodes qui vont arriver très vite.
Marcella, les deux premières saisons disponibles sur Netflix.
Netflix.
Très bien, merci beaucoup. Ça a donné très très envie. Ava, Irresponsable, c'est un peu vous ça sur OCS.
Mais complètement, c'est un adjectif que j'adore. Irresponsable sur OCS, de la saison 1 à la saison 3. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette série drôle et émouvante, la saison 1 a été diffusée il y a déjà 3 ans donc sur OCS, créée par Frédéric Rousset et sa sœur Camille. Et elle raconte les déboires d'un trentenaire un peu loser et un peu mytho qui vient revivre chez sa mère à Chaville après avoir perdu son boulot. Maman qui se réjouit. Oui, évidemment, cette nouvelle cohabitation, vous imaginez bien. Julien a cette phrase, le héros, donc assez géniale dans le premier épisode. Quand je dis que je ne fais pas quelque chose, eh bien, je ne fais pas quelque chose. Ça vous en dit long, voilà, sur le personnage.
On l'aime déjà.
Mi-Tanguy, bah oui, mi-Tanguy, mi-Parasite, un anti-héros qui cherche sa place, son rythme et l'amour. Évidemment, il est interprété par le formidable Sébastien Chassagne, récemment à l'affiche du film Selfie, et il cultive une certaine ressemblance avec un certain Woody Allen. Et oui, vous comprenez davantage mon goût pour cette série qui brasse évidemment tout plein de questionnements existentiels avec panache et subtilité. Les trois saisons sont d'une qualité croissante, les dialogues sont hilarants, des personnages superbement bien taillés et un questionnement tout en finesse sur la vie d'adulte, les responsabilités, la paternité, parce que Julien découvre vite qu'il est papa d'un adolescent dont il ignorait tout de l'existence. Donc à découvrir sur OCS Irresponsable, dont la saison 3 signe la fin de la série et c'est important de soigner sa sortie et il faut dire que la série réussit ça en plus avec brio.
Merci beaucoup, Irresponsable sur OCS. Là aussi, vous avez bien titillé notre appétit de série. Quant à moi, ce petit plateau télé, bien nous allons nous déplacer jusqu'à Berlin, puisque je rentre du festival, vous y étiez également, à Wacken, pour vous dire un petit mot de Berlinale Série. Oui, Berlin est le seul festival de cinéma international à proposer une véritable sélection de séries, pas un petit truc comme ça dans le coin, sans se pincer le nez, sans s'excuser de le faire, sans trouver de mauvais prétextes. Bref, 9 séries, 8 fictions et un documentaire. Le documentaire, c'est Hilary de Nanette Burstein, qui sera diffusé sur Canal+ à partir du 16 mars et que je vous recommande. 4 heures sur le destin hors du commun, quand même, de Hillary Clinton. Parmi les séries de fiction, Freud, série allemande, qui sera diffusée début mars sur Netflix. Évidemment, série allemande, ça a été la série d'ouverture, en grande pompe. Ouais, ça méritait peut-être pas tant d'honneur que ça, vous êtes d'accord avec moi. Cher Ava, Freud est un jeune praticien peu considéré, s'essayant à l'hypnose mais sans réel succès, du moins au début de la série, et qui va se muer en investigateur mentaliste. 2 épisodes plombés par une écriture ampoulée et souvent caricaturale. Je suis pas sûr qu'on y revienne, je crois que je vous épargnerai. Autre série très attendue, Stateless, produite et interprétée dans un second rôle par Kate Blanchett, qui est venue avec des talents de 12 cm et une demi-heure de retard. Donc quand même, déjà,
elle fait ça bien.
Elle le fait très très bien, mais il faut dire qu'elle a retourné la salle malgré ce retard. Une série australienne donc sur le sort des migrants. Série un peu poussive et surtout qui commet pour moi une faute de goût embarrassante. On a vu que les 2 premiers épisodes, je tiens à le préciser, le personnage principalement développé dans ces 2 premiers épisodes est une blanche australienne, fille à papa qui suite à un burn-out se retrouve dans un centre de rétention pour immigrés. Immigrés qui du coup jouent les seconds rôles, hein, pour ne pas dire les figurants bien bord cadre hein, quand même, s'il vous plaît. Dans cette série qui leur était pourtant consacrée, espérons que cela s'arrange évidemment pour la suite. Et puis ensuite, dernière série très attendue, mais ça nous y reviendrons début mai puisqu'elle sera diffusée à partir du 8 sur Netflix, The AD, la série réalisée par Damien Chazelle et écrite par Jack Thorne, qui était l'auteur de À la croisée des mondes sur OCS dont nous avions parlé. Pas tout à fait en bien en début de saison. À Paris, le quotidien d'un bar de jazz entre difficultés financières et drames inattendus. Là aussi, 2 premiers épisodes qui, pour moi, manquent de style et d'enjeux réels malgré une déferlante rebondissement côté scénario. Ça n'est que mon avis. Évidemment, on en débattra début mai sur une heure en série. Évidemment, une heure en série qui se conclut. Et oui, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission avec votre brillance, votre pertinence et votre mauvaise foi légendaire. Merci à Ava Kahn, merci à Christine Haas et merci à Benoît Lagarde qui ont au scalpel découpé Dr. Harrow, Gentlefield et 000 cette semaine. La semaine prochaine, nous évoquerons le top 10 des auditeurs. Vous avez été nombreuses et nombreux à voter, donc mille merci d'avoir joué le jeu, surtout que je sais que ça n'a pas toujours été facile, mais voilà, vous avez répondu présent au rendez-vous et mille merci. N'oubliez pas le masque et la plume diffusés demain soir. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, réécouter l'émission en podcast, nous envoyer des courriers. Une heure en série a été réalisée cette semaine par Marie-Annick Rimbaud. La programmation musicale assurée par Muriel Pérez. Nous avons préparé ensemble l'émission avec Amel Kaldi et à la technique aujourd'hui, Tristan Gradalon.